écoutez Europe 1.
Il est 19h.
Europe 1 soir.
19h, 20h.
Hélène Zélani.
Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 soir. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Matignon. Cet après-midi, Gabriel Attal voulait lui témoigner son soutien alors qu'il vient de quitter son poste pour des raisons de sécurité. Lui s'en va, l'élève qui ne voulait pas enlever son voile n'a pas été sanctionné. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez témoigner au 01 80 20 39 21. On en parle après ce journal avec le représentant national des parents d'élèves, la PEP, et un professeur qui a lui aussi été menacé de mort il y a plusieurs années. Encore des piratages visant des établissements scolaires, cette fois à Paris, plus d'une trentaine ont été évacués par sécurité. Dans ce journal, les assureurs plombés par la hausse des dépenses de santé, le gaspillage alimentaire qui atteint des sommets, et puis peut-être devrez-vous patienter pour recevoir votre salaire sur votre compte bancaire, on va vous expliquer pourquoi. Bonsoir Marlène Duret.
Bonsoir Hélène.
La tendance météo.
Alors de nouvelles pluies vont traverser le pays cette nuit et un ciel changeant instable qui prendra le relais au nord d'une ligne La Rochelle-Strasbourg. Ce sera le retour des giboulées avec des vents qui pourront souffler violemment. Une alerte orange est enclenchée dans les Côtes d'Armor, le Finistère, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime. Et les vents vont aussi se renforcer sur l'est du bassin méditerranéen. Le Var est placé en alerte orange vague submersion. On fait un point complet à la fin du journal.
À tout à l'heure.
Europe 1.
Et donc tout d'abord cette affaire qui suscite l'indignation générale. Le proviseur du lycée Maurice Ravel a quitté son poste. Il invoque des raisons de sécurité après les menaces de mort reçues sur Internet parce qu'il avait demandé à une élève d'enlever son voile. Geste très symbolique. Louis Salé, le proviseur, a été reçu à Matignon cet après-midi.
Oui, le Premier ministre l'a reçu en compagnie de la ministre de l'Éducation Nicole Belloubet pour réaffirmer à ce chef d'établissement son soutien et qu'au sujet du non-respect de la laïcité à l'école, eh bien il y a, je cite, zéro impunité et zéro complicité, d'après l'entourage de Gabriel Attal. Une enquête est par ailleurs ouverte à Paris pour cyberharcèlement. Un homme de 26 ans a été arrêté et doit être jugé le 23 avril pour avoir proféré des menaces de mort sur Internet à l'encontre de ce proviseur. Et la plainte de l'élève qui disait avoir été victime de gestes violents lorsque ce chef d'établissement lui avait demandé d'ôter son voile, eh bien, a été classée sans suite. Ce départ anticipé du proviseur du lycée de Maurice Ravel a suscité une vague d'indignation politique, de la gauche à l'extrême droite. Le chef des députés socialistes, Boris Vallaud, a dénoncé un échec collectif, tandis que Marion Maréchal, tête de liste Reconquête aux élections européennes, parle de défaite de l'État.
Louis Salé, spécialiste éducation d'Europe 1. Écoutez ce parent d'élève qui déplore le départ du chef d'établissement.
On regrette que, en tout cas, ce départ se fasse dans ces conditions-là. Si c'est à titre personnel qu'il décide de partir, on peut comprendre, vu le contexte dans lequel il était. Après, nous, les parents d'élèves, on avait plutôt de bonnes relations avec lui, donc on regrette son départ. On continue aujourd'hui à le soutenir. C'est clair que d'être menacé de mort dans le cadre des fonctions, et surtout pour avoir fait respecter la loi, tout simplement, au sein de l'établissement, c'est regrettable. Le départ, la fuite, c'est jamais vraiment une solution. J'espère que le ministère n'a pas uniquement apporté des paroles en disant on le soutient. Peut-être qu'il aurait dû avoir plus de protection, une protection policière notamment. C'est toujours compliqué parce que il représente également un établissement. Il y a plein d'autres élèves, il y a des parents qui sont inquiets de la situation. Peut-être qu'il a estimé que pour apaiser la situation, il valait mieux qu'il parte.
Un parent d'élève du lycée Ravel, interrogé par Martin Lange. Et ce soir, on apprend qu'un autre proviseur a été menacé de mort pour avoir demandé à une élève de retirer son voile dans un lycée d'Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Affaire qui a commencé il y a 2 ans. 3 personnes sont convoquées fin mai devant la justice pour ces menaces. L'élève, elle, a été exclue l'année dernière. Qu'en pensez-vous? 01 80 20 39 21. On en parle juste après ce journal avec le porte-parole des parents d'élèves, la PEP, et avec un enseignant lui-même menacé de mort il y a plusieurs années. Le piratage visant des collèges et des lycées se poursuit avec de nouvelles alertes à la bombe dans une cinquantaine d'établissements scolaires parisiens la nuit dernière. Établissements qui ont d'ailleurs été fermés par mesure de précaution. Les forces de l'ordre n'ont rien trouvé. Le point de départ, Jean-Baptiste Marty, c'est toujours le même genre de message envoyé sur l'espace numérique des élèves.
Oui, un mail envoyé par une personne anonyme après le piratage des serveurs de l'éducation nationale avec un message de mort qu'Europe 1 a consulté et qui ressemble fortement à celui déjà envoyé la semaine dernière dans d'autres lycées. Il est notamment question de faire exploser les établissements de la capitale et d'égorger élèves et professeurs, le tout accompagné d'une vidéo de 12 minutes qui met en scène une décapitation, un message dont l'auteur se réclame de l'État islamique. Une cinquantaine d'établissements parisiens ont été visés entraînant la fermeture de l'ensemble de ces lieux. Dans certains collèges, des brevets blancs ont même dû être annulés. Le parquet annonce ce soir l'ouverture de 2 enquêtes concernant ces menaces d'attentat.
Jean-Baptiste Marty.
19h-20h.
Hélène Zélani.
La cause est entendue, le déficit des comptes publics a gravement dérapé en 2023, 5,5% du PIB. Le gouvernement, qui réfléchit à des solutions, était réuni en séminaire aujourd'hui, réunion consacrée au travail. Le Premier ministre Gabriel Attal considère que le travail donne sa force à notre pays. Voilà qui donne le ton de son intervention de ce soir dans le 20h de TF1, Arthur Delaborde.
Oui, l'incitation au retour à l'emploi devrait être au cœur de sa prise de parole tout à l'heure. C'était d'ailleurs le premier point à l'ordre du jour ce matin à Matignon. La ministre du Travail, Catherine Vautrin, a présenté 2 pistes pour durcir les règles de l'assurance chômage. Allongement du délai de carence pour les personnes bénéficiant d'indemnités de licenciement élevées, sans toucher donc à ce stade au montant et à la durée d'indemnisation. Et puis extension du système de bonus-malus pour les entreprises afin de lutter contre les emplois précaires. Rien n'est encore tranché, assure un participant, qui souligne qu'il n'y a pas de tabou sur la manière de ramener les Français vers l'emploi. Une ligne qui ne fait pas forcément l'unanimité au sein du gouvernement et de la majorité. Ce n'est pas le moment de créer de l'anxiété dans l'opinion, alerte un ministre, qui plaide pour ouvrir le débat sur la contribution des plus riches. Attention à la jospinisation, a par ailleurs mis en garde Gérald Darmanin, qui craint déjà qu'en 2027, l'actuelle majorité présidentielle puisse se targuer d'avoir fait baisser le chômage, tout en étant disqualifié pour le second tour.
Gabriel Attal, qui donc ce soir sur TF1 sera bien évidemment interrogé sur l'ampleur du déficit et la façon de le combler. Le gouvernement espère bien revenir dans les clous à l'horizon 2027, à moins de 3%, sauf que l'agence de notation Moody's douche cet espoir. Elle juge improbable que la France y parvienne. Ajoutons que la commission des finances du Sénat lance une mission parlementaire sur la dégradation du déficit public et sur le défaut d'information du Parlement sur la situation. Il est 19h08 sur Europe 1. Une pause et on parle des assureurs qui alertent sur la hausse des frais de santé, mais aussi on parle de la lourde addition du gaspillage alimentaire.
Europe 1 soir.
Jusqu'à 20h.
Hélène Zélani.
19h10 sur Europe 1, vous le savez, les risques augmentent, qu'ils soient climatiques, informatiques ou sécuritaires, et la santé n'y échappe pas non plus. Les mutuelles doivent prendre en charge des frais de plus en plus élevés. Et forcément, Margot Faudéré, ces dépenses additionnelles pèsent sur leur compte.
Oui, elles représentent 1,2 milliard d'euros de surcoût pour les complémentaires santé en 2023 et en 2024. D'abord, les mutuelles, comme la sécurité sociale d'ailleurs, doivent faire face à l'augmentation globale des dépenses de santé des Français. Mais ce n'est pas tout, explique Florence Lutzmann, c'est la présidente de France Assureurs.
Les complémentaires santé, qui couvrent 96% de la population française, subissent également un certain nombre d'effets, comme des transferts depuis l'assurance maladie obligatoire vers les complémentaires.
C'est le cas de la prise en charge des frais dentaires, 400 millions d'euros de surcoût pour les mutuelles en 2023 et en 2024. Et forcément, ces nouvelles dépenses se répercutent sur le prix des contrats. Alors pour faire face à cette situation, France Assureurs appelle notamment à mieux lutter contre la fraude sociale. C'est un sujet cher aussi à Gabriel Attal. Le Premier ministre s'est récemment félicité des résultats du grand plan contre la fraude lancé l'année dernière, avec plus de 2 milliards d'euros de fraude sociale détectée en 2023.
Margot Faudéré, on sait que le gaspillage alimentaire est un fléau, mais avez-vous une idée de son ampleur ? Eh bien, selon les estimations de l'ONU, 1 milliard de repas ont été jetés chaque jour dans le monde en 2022. Et encore, ce chiffre serait sous-estimé. Les premiers responsables, Camille Moreau, ce sont les ménages.
Et oui, réfrigérateurs trop remplis, assiettes qui débordent, restes qui ne donnent plus envie. Résultat, en 2022, les ménages ont jeté 631 millions de tonnes de nourriture à la poubelle. C'est 60% du gaspillage alimentaire mondial. Et pourtant, très souvent, ces produits sont parfaitement comestibles. Un yaourt, par exemple, peut être consommé sans aucun risque jusqu'à 10 jours après la date de péremption.
Et les cantines d'entreprises ne sont pas en reste, hein, Camille. Elles sont responsables de près de 30% de ce gaspillage.
Effectivement, aujourd'hui, il est plus souvent rentable pour ces entreprises de jeter la nourriture que de trouver une alternative plus durable comme le compostage. Au total, le gaspillage alimentaire représente près d'un cinquième de la nourriture disponible dans le monde. C'est un échec environnemental, dénoncent les auteurs du rapport, puisque les aliments jetés sont quand même produits. Ils génèrent jusqu'à 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et plus alarmant encore, d'après l'ONU, on pourrait servir un repas par jour aux 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde.
Camille Moreau, et malheureusement, on va gâcher des huîtres du bassin d'Arcachon. Les ventes ont en effet chuté de 50% depuis deux mois. La vente a été réautorisée en janvier dernier après des intoxications pendant les fêtes. Le comité régional conchylicole attend les indemnisations promises, mais compte surtout sur une relance de la consommation. Si vous êtes employé, vous risquez d'avoir une mauvaise surprise en cette fin de mois, recevoir votre salaire avec quelques jours de retard. Et oui, les virements seront bloqués en Europe entre ce vendredi 29 mars, férié pour les banques, et le lundi de Pâques, le 1er avril. Logique, le système qui gère les virements entre banques européennes ne fonctionne pas les jours fériés. Reportage Aurélien Fleureau.
Facture d'électricité, loyer, les prélèvements bancaires s'enchaînent souvent à partir du 30 ou 31 de chaque mois. Alors forcément, n'être payé que le 2 avril ne serait pas idéal pour Timothée.
C'est vrai que 4 jours, c'est un petit peu long au niveau des avances, des loyers, etc. Mais ouais, on anticipe. On va peut-être poser la question, effectivement, mais je pense que la boîte aura fait le nécessaire.
Vincent, lui, est plutôt résigné puisqu'il vit régulièrement cette situation.
Mon patron paye toujours en retard, donc de toute manière, ça ne changera pas grand-chose pour moi. Toutes les factures qu'on a, généralement, moi, je m'arrange pour que ce soit prélevé après que ma paye arrive. Sinon, c'est comme ça qu'on se retrouve dans le rouge et puis après, j'ai ma bancaire sur les côtes.
Mais heureusement, de nombreuses entreprises ont pris les devants et ont informé leurs salariés.
Dans notre entreprise, ça a été pris en compte. Justement, ils nous ont prévenu qu'il y avait un décalage de 4 jours et puis ils ont anticipé. Et puis ce mois-ci, ils vont nous verser le salaire un jour plus tôt que les mois précédents.
Et si votre employeur n'a pas été aussi prévoyant, ce n'est pas trop tard pour une piqûre de rappel. Si le virement est initié dans les heures qui viennent, vous serez payé avant cette exceptionnelle pause bancaire de 4 jours.
Et nous, on a de la chance à Europe 1, notre employeur est prévoyant. Un mot des JO, la vasque olympique sera installée dans le jardin des Tuileries en plein centre de Paris, entre le Louvre et la Concorde, un emplacement qui permettra au public de venir l'admirer.
Mon nom est Pau et il va me falloir un chapeau.
Vous aurez peut-être reconnu Po, le plus célèbre des pandas de dessin animé. Le 4e volet des aventures de Kung Fu Panda sort aujourd'hui, 8 ans après l'épisode 3. De quoi ravir petits et grands, avec, je dois l'avouer, un clin d'œil particulier à mon personnage préféré, Maître Shifu.
Vous posséderez le Kung Fu des plus grands méchants.
Maître Didier Hameau de Boursier.com, vous êtes là pour nous instruire sur les marchés financiers. Paris termine sur un nouveau record.
Oui, on va essayer de s'instruire. Effectivement, un nouveau record, un nouveau sommet. Alors, c'était plutôt calme, hein, mais c'est un record en clôture. 8205 points sur le CAC 40, plus 0,25%. Le marché reste ferme en attendant les prochains indicateurs d'inflation qui seront publiés en fin de semaine aux États-Unis en particulier et qui devraient confirmer un ralentissement de la hausse des prix. De quoi encourager les banques centrales à baisser leurs taux d'intérêt, sans doute à partir du mois de juin. Alors ça entraîne tous les marchés financiers qui montent, même si c'est resté assez calme en Europe. Francfort a battu un nouveau record, plus 0,5%. Madrid a gagné 1%, Bruxelles plus 0,6%. Et donc le CAC 40 grimpe ce soir de 0,25%. Là aussi, c'est un sommet historique, 8205 points.
Merci Didier Hameau. La météo, Marlène Duret, ça sera agité demain avec notamment du vent qui va souffler.
Ah ben oui, effectivement, on a une nouvelle perturbation pluvieuse qui va traverser le pays cette nuit, d'ouest en est. Elle s'étendra demain matin sur toute la façade est et jusqu'en Corse d'ailleurs. Il neigera en montagne et attention au risque d'avalanche pour les Alpes et la montagne Corse. Et puis elle va s'évacuer dans l'après-midi. Alors, petit focus quand même sur l'est du bassin méditerranéen. Les vents vont se renforcer. Alerte orange, vague submersion pour le Var, précisément l'ouest du département. Donc attention aux fortes vagues à partir de 6h demain matin et jusqu'à midi. Il est préférable de s'éloigner des jetées, des digues et de protéger vos biens de la montée des eaux. Hélène, et ça va souffler fort aussi près de l'Atlantique.
Oui, plusieurs départements sont d'ailleurs en alerte orange.
Et oui, on sera à l'arrière de la perturbation. Résultat, un ciel changeant avec le retour des giboulées, on va dire au nord d'une ligne La Rochelle-Strasbourg, ce qui veut dire éclaircies, averses, grésil, coup de tonnerre, vent. Faut pas se fier aux éclaircies, voir une bonne averse orageuse. Et alors là, les vents aussi, on va les surveiller, alerte orange, dans 6 départements, les Côtes d'Armor, le Finistère, la Loire-Atlantique, la Vendée, les Deux-Sèvres et la Charente-Maritime, des pointes à 120, même 130, pourquoi pas, près des côtes, 110 dans les terres, en cause de deux phénomènes. On a une dépression sur le proche Atlantique, notamment, et puis de l'instabilité. Voilà. Et puis, normalement, l'accalmie est prévue pour la fin d'après-midi.
Et si on parlait des températures, elles seront stationnaires ou en hausse?
Oui, pas de gelée, en tout cas, en pleine demain matin. L'après-midi, elles seront en hausse, mais pas partout. Tout juste de saison sur la moitié nord qui affichera 11 à 15 degrés. Au sud, 15 à 19, mais ça peut monter quand même jusqu'à 22. À à l'est de la Corse, 22 à Bastia. Ça, c'est le coup du Sirocco. C'est le vent.
Ah, un coup du Sirocco.
Voilà. Voilà. D'où les 22 degrés à Bastia.
Merci beaucoup Marlène, ça rappelle un film. 19h18 sur Europe 1, on est ensemble jusqu'à 20h. Dans un instant, retour sur cette affaire de départ du proviseur de Ravel ciblé par des menaces de mort. N'hésitez pas à nous donner votre avis au 01 80 20 39 21.
Europe 1 soir, 19h20.
Hélène Zélani.
19h21 sur Europe 1. Merci à tous ceux d'entre vous qui nous rejoignent. Le proviseur du lycée Maurice Ravel à Matignon. Il était reçu cet après-midi par le Premier ministre Gabriel Attal après l'annonce de son départ du lycée. Départ qui fait énormément de bruit. On va largement y revenir. D'abord avec vous, Laurent Zamekowski. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves. Merci d'être en direct dans Europe 1 soir. Je voudrais d'abord rappeler que le proviseur part parce qu'il ne se sentait plus en sécurité dans son établissement du 20e arrondissement de Paris. Il avait reçu des menaces de mort sur Internet liées à une altercation avec une élève qui refusait d'enlever son voile, élève dont la plainte a d'ailleurs été classée. Et donc, quand il y a une altercation de ce type, c'est le directeur qui s'en va et l'élève qui s'en sort bien. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas là.
Alors effectivement, là, on est face à une situation exceptionnelle, mais c'est pas une situation normale, dans le sens où c'est la situation avec les réseaux sociaux qui a changé la donne. Lorsque c'est une situation qui est localisée et qui ne se trouve pas répandue sur la place publique et notamment sur les réseaux sociaux, c'est pas comme ça, évidemment, que ça se passe. Là, malheureusement, ce proviseur se retrouve jeté quelque part face à une horde venant des réseaux sociaux et forcément, il y a une inquiétude et quelque part, sa réaction est totalement compréhensible. C'est extrêmement regrettable, mais tout à fait compréhensible. Je veux dire, n'importe quelle personne qui pourrait tout d'un coup, un fou, venir s'en prendre à lui. Malheureusement, on a déjà vu ça avec l'horrible assassinat de Samuel Paty. Donc voilà, on apporte tout notre soutien et la compréhension à ce proviseur. Et bien évidemment, on ne peut que regretter forcément qu'on ne soit plus face aux réseaux sociaux en capacité de pouvoir protéger les personnes.
Oui, parce que vous dites c'est la faute en quelque sorte de l'amplification via les réseaux sociaux. Sauf qu'aujourd'hui, les jeunes, ils vivent 100% quasiment du temps avec leur portable et leurs réseaux sociaux. Et c'est illusoire de penser qu'une affaire au sein d'un établissement scolaire peut échapper à ça. C'est inévitable.
C'est souvent les situations qu'on a de harcèlement qui tournent au cyberharcèlement, hein. Que ça soit bien sûr d'abord pour les élèves, mais dans ce cas-là pour un enseignant ou enfin un chef d'établissement. Donc c'est malheureusement l'impact qu'ont ces médias, ces réseaux sociaux qui ne sont pas contrôlés, dans lesquels on peut quelque part avoir une certaine impunité. Heureusement pas totale, mais malheureusement encore aujourd'hui, les gens ont l'impression de pouvoir dire et faire n'importe quoi. Et on se retrouve avec une violence et une agressivité qui est totalement déraisonnée, déraisonnable et incontrôlée. Et donc forcément, c'est extrêmement inquiétant.
Quelle est la responsabilité des parents, puisque vous représentez les parents d'élèves?
Alors en l'occurrence, l'élève en question, elle est majeure.
Elle est majeure,
donc,
certes,
mais
de manière globale, dans ces problèmes d'autorité, dans le fait qu'un chef d'établissement se retrouve obligé de quitter cet établissement face à des menaces, est-ce qu'il n'y a pas quelque part quand même une nécessité pour les parents en général, pas forcément les parents de cet élève évidemment, de prendre des mesures vis-à-vis de leurs enfants, ne serait-ce que de leur apprendre certaines bases de respect de l'autorité?
C'est heureusement la grande majorité, la très grande majorité des parents qui fonctionnent comme ça. Je veux dire, l'autorité d'abord des parents eux-mêmes et après l'autorité de l'école. Après, malheureusement, la société, vu qu'il ne va pas forcément très bien, des enfants qui échappent à l'autorité de leurs parents, qui se retrouvent influencés par d'autres personnes, plus bien évidemment aussi les adolescents qui sont déjà en rébellion. Donc, vous vous doutez bien que tout ça accumulé fait que malheureusement des parents, même certains qui vraiment essaient de faire de leur mieux, se retrouvent parfois désemparés et incapables de pouvoir contrôler certains adolescents, bien sûr. Après, il ne faut pas non plus généraliser.
Bien sûr. Est-ce que vous êtes en relation avec les parents d'élèves du lycée Ravel ?
Au lycée Ravel, les parents sont globalement tous consternés de la décision du proviseur de partir. Je veux dire, ils n'avaient absolument pas envie qu'il parte. Il faut quand même savoir une chose, c'est que le proviseur est là, bien sûr, l'incarnation de l'autorité, donc également de la sécurité. Et donc, lorsque celui-ci renonce, c'est également l'ensemble de la communauté éducative, c'est la sphère de confiance, de sécurité qui s'effondre. Donc ça crée un émoi terrible. Les parents sont absolument effondrés de son départ.
Si vous le voulez bien, on va prendre en ligne Odile qui nous appelle de la Drôme. Bonsoir Odile.
Bonsoir.
Vous êtes vous-même professeur de français dans un collège et j'imagine que quand vous entendez ce qui se passe à Ravel, ça résonne et vous êtes extrêmement choquée.
Je suis complètement révoltée parce que on n'imaginait pas ce qui s'est passé à Arras et on a l'impression que ça n'a pas suffi, en quelque sorte. C'est-à-dire que on ne se sent pas soutenu, c'est-à-dire que s'est-il passé après Arras finalement?
L'assassinat de Dominique Bernard.
Voilà, on a beaucoup discuté, il y a eu beaucoup d'émoi, mais pour nous, dans les établissements scolaires, rien n'a changé. Il n'y a pas de sécurité, il se passe rien. Et moi, je trouve que on n'est pas soutenu. Et je ne sais pas quelle est la pensée exacte de ce proviseur, mais je pense qu'il doit être désespéré parce qu'il ne doit pas se sentir soutenu. Il a préféré démissionner. Donc Gabriel Attal l'a reçu aujourd'hui, mais certainement parce qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de tout ça. C'est avant qu'il aurait fallu réagir.
Gabriel Attal qui a dit sur la laïcité à l'école, zéro impunité, zéro complicité. Merci beaucoup Odile. Laurent Zamekowski, vous représentez donc la Fédération des parents d'élèves. Quand vous entendez cette enseignante de la Drôme qui dit qu'elle ne se sent pas en sécurité, vous en tant que parent, ça doit quand même vous inquiéter considérablement.
Mais bien évidemment, et on la comprend tout à fait. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle nous demandons régulièrement de pouvoir augmenter les effectifs, notamment d'assistants d'éducation. Puisqu'aujourd'hui, par exemple, au collège, vous êtes un assistant d'éducation pour au moins une centaine d'élèves, voire plus. Donc vous vous doutez bien que c'est pas comme ça qu'on peut repérer, détecter des situations d'atteinte à la laïcité, des questions de harcèlement, des questions de violence, des violences diverses et variées. Donc aujourd'hui, il est extrêmement important, et également aussi pour empêcher les intrusions, soyons clairs, il est extrêmement important de pouvoir renforcer cette surveillance de manière à pouvoir pratiquer la prévention. Parce que justement, le plus important aujourd'hui, c'est de pouvoir prévenir ces situations, de pouvoir les découpiller très tôt pour éviter qu'on se trouve aujourd'hui dans des situations comme ça.
Laurent Zamekowski, porte-parole de l'APEB, vous restez avec nous. On marque une petite pause et on va se retrouver juste après.
Europe 1, le journal permanent.
Gabriel Attal a reçu cet après-midi le proviseur du lycée Ravel menacé de mort après avoir demandé à une élève de retirer son voile. Le chef d'établissement a présenté sa démission pour des raisons de sécurité. La plainte déposée par l'élève pour violence a été classée sans suite. Gabriel Attal qui réunissait aujourd'hui l'ensemble de ses ministres à Matignon, séminaire gouvernemental consacré au travail, l'assurance chômage est notamment dans le viseur de l'exécutif pour combler le dérapage du déficit. L'agence de notation Moody's juge improbable que la France respecte son objectif de réduction du déficit d'ici 2027, c'est-à-dire en dessous de la barre des 3% du budget. Gabriel Attal qui s'exprime d'ailleurs ce soir à 20h à la télévision. Marine Le Pen sera jugée à partir du 30 septembre pour des soupçons de détournement de fonds européens. La chef de file des députés RN comparaîtra devant le tribunal correctionnel de Paris aux côtés de son père et de la direction du RN des années 2010. Le nombre de baptêmes est en hausse cette année, plus 31% pour les adultes, plus 50% en moyenne pour les adolescents. Enquête de la Conférence des évêques de France et on va en parler justement à 19h45. Et puis, 6 départements de l'ouest de la France en vigilance orange au vent. La dépression Nelson s'accompagne de rafales jusqu'à 130 km/h. Alerte orange, vague et submersion dans le Var.
19h-20h, Europe 1 soir.
19h33, nous sommes toujours en direct avec le porte-parole de la PEP, la Fédération des parents d'élèves, Laurent Zamekowski, et nous sommes également avec Stéphane Didier, professeur d'histoire géo dans un établissement du secondaire dans le sud-ouest. Bonsoir, merci à vous aussi de nous rejoindre sur Europe 1. On a eu envie de vous avoir en ligne parce que vous avez expérimenté personnellement les menaces de mort et aussi le manque de soutien. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qui vous est arrivé ?
Bonsoir Madame Zelani, bonsoir à vos auditeurs. Oui, donc cette affaire s'est passée dans un des trois collèges de Cognac. Ça s'est passé exactement le 16 décembre 2020, à la suite d'un devoir sur le Troisième Reich et les persécutions nazies à l'égard de la communauté juive. J'ai eu une de mes élèves de confession musulmane, qui a refusé de répondre aux questions, et j'ai demandé pourquoi elle n'a pas fait son devoir, elle a refusé de répondre aux questions, et donc elle n'a pas donné de réponse, et donc je lui ai mis une note qui était de 0 sur 20, et elle a ensuite monté une cabale contre moi en prétextant que j'avais eu des propos islamophobes et des propos à caractère raciste, et c'est lors de l'entrevue avec la mère de famille, deux mois après, jour pour jour, le meurtre de Samuel Paty, qu'une altercation a éclaté en salle de rendez-vous avec les parents au moment de cette affaire, et elle m'a accusé d'en avoir fait trop autour de l'affaire de Samuel Paty. C'était une accusation directe. Elle contestait également mes cours au sujet de la laïcité et que j'étais un professeur raciste, etc. Oui. Et donc la conversation a très vite dégénéré puisque j'ai eu des menaces directes me demandant de bien réfléchir à ce qui était arrivé à Samuel Paty et que cela ne serait pas sans conséquence.
Alors donc vous avez subi ces pressions, ces menaces de mort. Quand vous avez entendu ce qui s'est passé à Ravel, quand vous apprenez hier que le proviseur s'en va, comment vous réagissez ?
Il y a autour de cette affaire, il y a trois choses. D'abord, ce que je veux dire, je vais élargir mon analyse, si vous voulez. D'abord, premièrement, c'est un succès politique et un succès de société pour les islamistes. On a un serviteur de l'État qui a été victime d'attaques à la fois sur Internet, et on a les mêmes paramètres que l'affaire de Samuel Paty, d'accord ? Et c'est une victoire politique dans le sens où les islamistes ont réussi à affaiblir la communauté nationale en établissant une nouvelle forme d'identification, on le voit là, à partir d'une demande politico-religieuse, pour couper les citoyens de la communauté nationale. C'est aussi une victoire du séparatisme. Le voile islamique est un marqueur identitaire et qui permet aux musulmanes de se distinguer des autres populations. À ce que je sache, l'élève en question n'a pas été sanctionné. Elle n'a pas été rayée des listes de l'établissement. Alors qu'on a dans le même temps un chef d'établissement qui, lui, a dû partir. Une fois de plus, ce sont les islamistes qui ont l'initiative et c'est les représentants de l'État qui subissent les événements. D'accord ? Donc, ce qui m'amène à penser que, deuxième point, c'est une défaite considérable pour la République, malgré qu'il y a évidemment un soutien de l'exécutif. On a vu l'action de Madame la ministre de l'Éducation, Madame Belloubet, et aussi il a été reçu par Monsieur Attal, mais oui. Je dirais que tout ça c'est un cautère sur une jambe de bois, puisque il n'empêche que je ne remets pas en cause la détermination de l'exécutif, mais là où ça ne va pas, c'est à l'étage en dessous, si vous voulez. On a une administration qui est le rectorat, qui semble frileuse, affaiblie. Je dirais même sclérosé, et c'est ce qui m'est arrivé, parce que moi je n'ai pas été soutenu par le rectorat de Poitiers à l'époque, d'accord, j'ai eu aucun soutien de mon rectorat, je n'ai pas été reçu par la rectrice de l'académie, moi j'ai pas eu de ministre pour me recevoir, ouais. Je me suis retrouvé tout seul face Même mon chef d'établissement ne m'a pas soutenu, alors qu'il est toujours en activité. Je vous signale.
Stéphane Didier, vous soulevez plusieurs points. J'aimerais juste faire réagir deux secondes de Laurent Zabekowski, porte-parole de la paix, parce que vous avez dit, il y a des mots forts. Vous dites que c'est une défaite pour la République et que le rectorat s'est montré frileux. Est-ce que vous partagez cette analyse, Laurent?
Déjà, je voudrais apporter tout mon soutien à un monsieur qui témoigne, et ce qu'il a subi est totalement inacceptable. Soyons très clairs, malheureusement, il faut pas faire de généralité, mais effectivement, certains parents ont des comportements qui dépassent l'entendement et qui ne sont pas corrects. Et je peux voilà. Après, au-delà de ça, on est aussi face à un système qui est avec une administration qui est parfois, même très souvent, malheureusement, sourde et aveugle, qui fonctionne comme une mécanique, qui s'autoprotège.
C'est grave, ça. C'est grave.
Mais bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est pas qu'à l'Éducation nationale. C'est à peu près dans toute l'administration française. On a une mécanique. Finalement, on se rend compte que quelque part, même une intelligence artificielle arriverait à mieux faire.
Sauf que là, il y a des vies en jeu à la fin du compte.
Mais exactement, je vous rappelle ce qui s'est passé lorsque l'Académie de Versailles a envoyé la lettre au parent Nicolas qui s'est suicidé. C'est le même acabit. Je veux dire, c'est une administration qui est maltraitante et maltraitée aussi, qui se sent maltraitée. Il faut voir ce qui se passe. C'est une situation ubesque et dont tout le monde souffre. Il y a des questions en profondeur qui doivent se poser pour pouvoir arriver à dépasser ça. Je veux dire, aujourd'hui, il y a une espèce de mécanique implacable sur lequel aussi bien les enseignants, les chefs d'établissement, les parents, on est tous confrontés à ça. Et ceux même qui participent à cette mécanique, eux-mêmes ne sont pas heureux. Donc il y a un vrai problème. Il y a un fonctionnement qui est défaillant de manière globale. Et il faut vraiment se poser des questions de fond. Et il y a une remise en question globale des mentalités au sens large.
Alors vos constats tous les deux sont très très graves et très inquiétants. Isabelle, vous nous appelez d'Île-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Est-ce que vous aussi, vous faites ce type de... Vous n'êtes pas enseignante, hein, à ma connaissance.
Du tout.
Non, mais par contre, vous faites ce type de constat assez catastrophique de la situation de l'enseignement et du peu de soutien que reçoivent les enseignants.
Exactement. Et je pense qu'il manque quelque chose. Chaque matin, je pense que tous les enseignants feraient bien de donner aux enfants des leçons de morale. C'est-à-dire qu'ils auraient une heure afin de pouvoir...
C'est-à-dire quel type de message vous souhaiteriez qu'on transmette aux enfants?
Ben, vous savez, des morales comme dans le temps, ma grand-mère a sûrement eu à l'école. C'est-à-dire qu'on leur dise que on est en France, on est en France et on doit absolument suivre le régime français, rester français dans notre tête. Et on n'a pas le droit d'avoir un voile sur la tête, de passer droit, comme ça s'est passé pour cette personne qui a été interpellée par le proviseur, de venir habillée comme on a envie de l'être à certains moments. Et il est hors de question de laisser ses enfants... essayer de
ne pas respecter la laïcité.
Qu'ils sont chez eux, respecter la laïcité. Voilà.
Merci Isabelle. Le porte-parole de la PEP, Laurent Zabekowski, réagit à ce que vous dites aussi. Ce problème de respect de la laïcité, est-ce que vous pensez qu'il est central aujourd'hui dans les établissements?
Alors il y a la première chose, c'est que les adolescents, il y a toujours une espèce de forme de rébellion. Hein. Je vais reprendre un film des années 50 avec Glenn Ford qui s'appelle Graines de violence. C'était déjà le cas. Il y avait des situations d'agression d'enseignants, etc. C'était il y a 70 ans. Donc vous doutez bien qu'en 70 ans, on n'a toujours pas réglé le problème. Après, au-delà de ça, les atteintes à la laïcité, effectivement, mais il y a aussi quelque part cette laïcité qui s'est un petit peu perdue, malheureusement. Mais c'est parce que quelque part, on a eu cette époque où finalement les choses se posaient pas forcément autant, et puis il y a des générations qui ont pris une distance parce que c'est quelque chose qui nous semblait normal et qui aujourd'hui aussi bien d'ailleurs de la part des parents, des enseignants et qu'on n'a pas forcément aussi bien transmis. Mmh. Et donc il y a une remise en question globale et générale de tous. Hein. Je veux dire, il faut pas stigmatiser en disant c'est les uns ou c'est les autres. Je veux dire les enfants finalement ils sont ce qu'on a produit et pas seulement les parents, c'est l'environnement, c'est tous. Il y a un problème collectif et on peut s'en sortir que tous ensemble.
Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup Laurent Zamekowski, porte-parole de la PEP, Fédération de parents d'élèves. Un grand merci également aux auditrices, aux auditeurs qui nous ont appelés et à Stéphane Didier, professeur d'histoire géo dans un établissement du secondaire du Sud-Ouest. Avant la pause, un conseil, ne manquez pas demain Culture Média de 9h30 à 11h, toute l'actualité culturelle avec Thomas Hill et ses chroniqueurs et un grand moment en perspective, l'invité de Culture Média sera le chanteur Grand Corps Malade. Il interprétera un titre en direct uniquement pour vous les auditeurs d'Europe 1. À tout de suite pour évoquer le succès des baptêmes aussi bien chez les ados que chez les adultes.
Europe 1 soir, 19h-20h.
Hélène Zélani.
19h46, le baptême à la côte. On note une forte augmentation des cérémonies en un an, selon une enquête de la Conférence des évêques de France. Et on va en parler avec vous, Catherine Chevalier. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être l'invitée d'Europe 1 soir. Vous êtes directrice du service national pour la catéchèse et le catéchuménat de la Conférence des évêques de France. Je précise que les catéchumènes, ce sont les postulants au baptême. Puisque tout le monde peut-être ne le sait pas. Les chiffres, venons-en aux chiffres parce qu'ils sont vraiment impressionnants. Plus 31% chez les adultes et même plus 50% chez les adolescents. Pourquoi une telle explosion des chiffres l'an dernier ?
Alors, on constate plusieurs choses. On avait constaté une remontée après le Covid et on s'est demandé si c'était un rattrapage des baptêmes qui n'avait pas pu avoir lieu. Et en fait, on constate une tendance plus forte qui se confirme et qui se confirmera ensuite l'an prochain. On sent que certainement des jeunes, en tout cas, pendant cette période-là, se sont posés beaucoup de questions de sens, de la vie, des questions existentielles, ont eu un besoin de solidarité, d'engagement, et qu'un certain nombre d'entre eux, donc ceux qui se présentent à la porte de l'Église, ont trouvé dans la foi catholique des ressources pour avancer sur ce chemin.
Vous disiez que les chiffres allaient être toujours aussi élevés hein, parce que selon toujours votre enquête, le nombre d'adultes qui seront baptisés hein, lors des célébrations de Pâques va progresser de 31% par rapport à l'an dernier. Donc c'est une tendance de fond.
Oui, tout à fait. C'est une tendance de fond. Et quand je disais que ça allait se confirmer, c'est que ce qu'on entend des personnes qui se présentent actuellement dans les paroisses ou depuis le début de l'année scolaire, comme le chemin catéchuménal dure entre 18 mois et 2 ans, on pense que l'an prochain, le chiffre se confirmera aussi. Donc on peut parler d'une tendance, effectivement.
Quand on parle d'adultes, est-ce que c'est toutes les tranches d'âge ?
Alors, toutes les tranches d'âge progressent. On a même des catéchumènes qui ont 80 ans, donc on peut dire dans toutes les tranches d'âge, mais pas selon la même importance. Et on constate que les jeunes, en particulier les 18-25 ans, la part augmente de manière très significative. Ils représentent maintenant 36%. Il faut savoir qu'il y a 5 ans, c'était à peine un quart et maintenant, ils sont plus d'un tiers. Donc, on voit que cette tranche d'âge augmente vraiment de manière significative.
Et la hausse, elle concerne toute la France ou certaines régions plus que d'autres ?
Alors, il y a bien sûr des disparités entre certains diocèses et entre certaines régions, mais globalement, en tout cas, on peut dire que partout, il y a une vraie vitalité du catéchuménat. Et ce qui est intéressant cette année, c'est de se rendre compte que c'est, comme l'an dernier, aussi dans les territoires ruraux. C'est pas simplement un fait urbain, c'est-à-dire que dans des diocèses où jusqu'ici, il y avait quelques catéchumènes, là, on atteint des chiffres plus significatifs.
Eh bien, écoutez, justement, pour en parler, on va tout de suite prendre en ligne Julie, qui est pharmacienne et qui nous appelle de la Manche. Bonsoir, Julie.
Bonsoir.
Merci de votre appel. Alors, vous avez été baptisée il y a tout juste un an.
Oui, tout à fait. En même temps que 3 autres femmes. On a été baptisée dans la commune de Saint-Pierre-Église. Le prêtre n'avait jamais eu 4 baptêmes d'adultes d'un coup. Et ça reste un très, très grand moment.
Pourquoi, je rappelle, vous avez 50 ans, permettez-moi de le dire, parce que ça a une importance aussi. Pourquoi, à 50 ans, avoir fait ce choix ?
Alors, en fait, ce choix, il m'a accompagnée toute ma vie. Toute ma vie, j'en ai eu envie. Et je n'ai pas pu. Et on va dire quand ça a été plus simple, après, je n'osais pas franchir le pas. Parce que ce n'est pas toujours simple d'aller voir un prêtre et de lui dire « j'aimerais me faire baptiser ». On va dire c'est quand mes enfants ont commencé le catéchisme que ça s'est mis en mouvement, véritablement. C'est grâce à eux que j'y suis allée.
Et pourquoi vous avez passé ce pas justement l'année dernière? C'était au moment de Pâques, hein, donc c'était vraiment Pâques 2023. Est-ce qu'il y a eu un déclencheur?
Alors le déclencheur, comment dire, ça a été un papier que m'a donné une des sœurs qui encadre mes filles, parce que mes filles sont enfants de cœur, on dit c'est avant d'hôtel maintenant, et elle a donné un papier parce qu'elle repère toujours les personnes dans l'église qui sont présentes mais qui ne vont pas communier. Et elle avait donné ce papier à une de mes filles, et là je me suis dit ah bah là c'est le moment, il faut que j'y aille. Et on a été plusieurs à avoir ce genre de réaction. Et on s'est préparé pendant 2 ans à ce qu'on a vécu l'année dernière.
Ah oui. Et qu'est-ce que ça a changé dans votre vie?
Beaucoup plus de choses que je l'aurais cru. Au départ, je ne l'ai fait que pour moi. Vraiment. Et égoïstement, parce que je sentais que j'avais besoin de le faire. Et puis, en fait, on rencontre une communauté. On rencontre beaucoup de choses auxquelles on ne pensait pas avoir accès. Il vous arrive plein d'événements aussi, au passage. Et moi, ça m'a apaisée. Ça m'a apporté, vraiment beaucoup d'apaisement, avant tout ça.
On parlait avec Catherine Chevalier de la quête de sens. Ça fait aussi partie de vos motivations, j'imagine?
Ah, complètement.
Ça a redonné du sens à votre vie?
Ça m'a redonné de l'espoir, plus que du sens. Vraiment, ça m'a permis de voir les choses parfois différemment ça m'aide à garder le cap.
C'est un témoignage très touchant, je vous remercie beaucoup Julie.
Je vous en prie.
Catherine Chevalier, quand vous entendez Julie, ça va totalement dans le sens de ce que vous venez de nous raconter.
Oui, tout à fait. En particulier, quand elle parle de son curé qui n'avait jamais vu ça, on peut dire qu'il y a cette impression des évêques, des prêtres, des communautés paroissiales, d'une joyeuse surprise de voir toutes ces personnes arriver.
Il y a aussi une chose intéressante dans votre enquête. De plus en plus de personnes qui se disent issues de familles sans religion se font baptiser.
Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est le mouvement un peu sociétal où la transmission de la foi depuis 2 générations ne se fait plus forcément. Et donc, on voit arriver des jeunes qui n'ont pas de culture chrétienne, mais qui sont interrogés, s'interrogent sur le sens de leur vie. Et certains qui lisent la Bible, qui sont intéressés par la personne du Christ et qui vont cheminer. Ça peut passer aussi par une recherche de fond. Global, ils vont chercher, ils rencontrent aussi des témoins, des personnes qui leur parlent. Voilà, tout ça les amène vers l'Église.
Ce qui est très intéressant, c'est cette histoire de quête de sens, parce qu'au moment du Covid, on en a énormément parlé, on avait parlé de toutes ces personnes qui quittaient les villes, allaient s'installer à la campagne, changer de métier, avaient pris goût au télétravail et n'avaient plus envie de passer des heures dans les embouteillages. Et ça se ressent aussi sur la religion, et ça c'est vraiment un mouvement très intéressant et qui préfigure peut-être aussi d'un changement dans notre société.
Oui, alors des sociologues parlent d'une deuxième modernité où finalement des choses comme la technique arrive à une certaine limite, le progrès arrive à une certaine limite, et donc on va chercher du sens, il y a une quête spirituelle qui se met en place, qui peut prendre plusieurs formes, mais de fait, un certain nombre de jeunes et d'adolescents, dans cette quête de sens, se tournent vers l'Église. Je pense qu'ils voient aussi des figures d'engagement, de solidarité, de fraternité dans l'Église qui leur parlent. Voilà.
Et quand on se fait baptiser en tant qu'adulte, on n'a pas du tout peur du regard des autres, parce qu'on imagine toujours des bébés se faire baptiser. Dire à 40-50 ans qu'on va se faire baptiser, c'est bien compris.
Oui, alors souvent on a une surprise, c'est-à-dire que les personnes qui arrivent vers 40-50 ans découvrent en fait, qu'elles peuvent se faire baptiser adultes. Et des fois, elles portaient cette question depuis très longtemps. Vous voyez, donc pour elles, c'est plutôt une joie de voir que c'est possible. Et en fait, dans leur, quand elles en parlent autour d'elles, alors c'est elles qui peuvent le mieux en parler, hein, mais les gens sont intéressés, en fait. Je pense qu'il y a une capacité à entendre le chemin d'une personne actuellement qui est véritable. Donc, elles en parlent assez facilement, finalement, dans leur milieu professionnel ou auprès de leurs amis, dans leur famille. Alors, tout ce n'est pas toujours très bien toujours reçu, mais elles peuvent en parler.
On parlait des personnes qui sont issues de familles athées. Est-ce que vous avez aussi des personnes d'autres religions qui décident de se tourner vers la religion catholique ?
Oui, tout à fait. Il y a chaque année des personnes qui viennent d'autres religions, que ce soit des religions d'origine asiatique, bouddhisme, etc., du judaïsme, de religions musulmanes, de mouvements autres spirituels. La part reste assez stable d'une année sur l'autre. C'est pour ça que nous n'avons pas fait de focus dessus cette année.
Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour les fêtes de Pâques, Catherine Chevalier ?
Eh bien, on peut surtout souhaiter à tous ces catéchumènes beaucoup de joie dans leur parcours et puis beaucoup de joie dans l'avenir, dans l'Église.
Eh bien, je vous dis un grand merci, Catherine Chevalier. Je rappelle que vous êtes directrice du Service national pour la catéchèse et le catéchuménat de la Conférence des évêques de France. Merci d'avoir été sur Europe 1.
Merci à vous.
Europe 1 Soir.
Et merci à tous de nous avoir suivis sur Europe 1. Rendez-vous demain pour un nouvel Europe 1 Soir. Excellente soirée avec la France Bouge, Elisabeth Assayag. Bonsoir, quel est votre programme ?
Bonsoir Hélène Zélani. Ce soir, une entreprise française de cosmétiques qui appartient toujours au même fondateur. Cette entreprise, c'est Caudalie et elle fait partie des entreprises qui ouvrent leur capital à tous ses salariés. C'est dans la France Bouge. À tout à l'heure.